en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Eh bien, messieurs les présidents, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, si aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ce thème du corps en mouvement, c'est qu'il illustre parfaitement une démarche qui me tient à cœur et que je mène déjà maintenant depuis plus de 10 ans, mêlant les arts et les sciences avec, pour ambition première, de tenter de reconstruire dans une période, comme vous le savez, qui est assez troublée, une période difficile, un nouvel humanisme et de réaffirmer, notamment chez les jeunes, l'importance qu'il faut accorder à une intelligence sensible, plus encore qu'à une culture encyclopédique. L'aventure, en ce qui me concerne, a commencé, comme vous le disiez tout à l'heure, en 2007 avec la publication de l'ouvrage « Quand l'art rencontre la science », ouvrage édité aux éditions La Martinière que j'ai coécrit avec Jean-Claude Amezen. Elle s'est poursuivie à partir de 2009, dans le cadre de la mission Art et Sciences que m'avait confiée Axel Kahn, alors président de l'Université Paris-Descartes, par des publications, des expositions présentées en France et à l'étranger, conçues autour de 2 thèmes essentiels, les âges de la vie et l'homme et son corps. Au total, 5 ouvrages d'art, de réflexion, d'analyse, de science, de médecine et quelques 30 expositions. Le corps en mouvement fait partie de celle-là. Réalisée en 2011 dans le cadre exceptionnel du réfectoire des Cordeliers à Paris et renouvelée l'année suivante au musée polytechnique de Moscou, en partenariat avec la Fondation L'Oréal, mais aussi avec la collaboration d'institutions prestigieuses telles que le Collège de France, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP, et la Bibliothèque interuniversité de santé de Paris. Corps, mouvement, deux mots qui n'en font qu'un lorsqu'il s'agit d'évoquer la vie. C'est dans son corps qu'on est, qu'on vit, qu'on s'implique dans le monde, qu'on rencontre autrui. Et s'il fallait définir ce corps, on pourrait dire qu'il est avant tout objet matériel qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans l'espace, mais il est également l'objet que nous sommes. En fait, il est un objet que l'on a, mais aussi un objet que l'on est. Ainsi, chacun de nous possède-t-il un corps physique projeté dans le monde et un corps psychique qui nous revoit au-dedans de nous-mêmes. Pour Nietzsche, il n'est d'existence pour l'homme, d'ailleurs, ou tout être vivant, que celle de son corps. Nietzsche qui nie farouchement le dualisme bien établi entre l'esprit et l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Un corps qu'il célèbre par ailleurs, surtout lorsqu'il est emporté par le mouvement, par la danse, par la musique. Le mouvement, quant à lui, est partout. Les nuages qui s'étirent dans le ciel, les vagues qui déferlent sur la grève, les astres qui parcourent inlassablement leurs orbites. Cependant, seule la vie anime les corps. Le mouvement nous apparaît souvent comme une évidence, comme quelque chose d'éminemment naturel. Il n'empêche que leur disparition brutale, associée à la rigidité de la mort, nous donne le vertige, nous hypnotise et nous fait prendre conscience alors de leur extraordinaire complexité. Ces mouvements dont il faut faire l'apprentissage, qu'il faut transformer, orienter, maîtriser pour créer l'exploit. Ce peut être l'exploit du jeune enfant qui fait ses premiers pas, tout aussi important que l'exploit du sportif de haut niveau qui va remporter une médaille olympique ou un titre mondial. Ces mouvements que la personne handicapée doit parfois réapprendre totalement et qui l'amènent à se dépasser. C'est d'ailleurs pour cela que nous avions choisi, pour parrainer cette exposition, Emmy Mullins, photographiée ici par Howard Schatz en 2007. Emmy Mullins, qui est une Américaine, à la fois athlète, mannequin, actrice. amputée des deux jambes, comme vous pouvez le constater, elle est l'image même du dépassement de soi, le symbole d'un mouvement retrouvé malgré l'amputation. Cette preuve que ce mouvement peut être source d'harmonie et de beauté. L'homme fasciné par le mouvement a éprouvé très tôt le besoin de reproduire, de comprendre son fonctionnement, pour mieux le reproduire sans doute, mais aussi pour l'observer, l'entretenir, l'optimiser. Ainsi, des générations d'artistes, d'inventeurs, d'ingénieurs, de chercheurs, de savants se sont-ils succédés pour tenter de mieux saisir ce mouvement qui est l'expression de la vie et qui en même temps est l'expression de leur vie. Le souci des artistes a plutôt été de le reproduire, celui des scientifiques de le comprendre. Ils verront toutefois parfois leur chemin se croiser et nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous aborderons le chapitre des automates ou plus encore celui de la chronophotographie et du phonoscope. Ce que je vous propose, c'est que tout d'abord nous tentions de percevoir à l'aide de quelques exemples et de manière bien entendu non exhaustive, quels moyens, quelles techniques, d'abord les artistes, puis les scientifiques, ont utilisé pour rapprocher au plus juste les mystères du corps en mouvement. J'aimerais ensuite insister sur l'une des fonctions, l'une des vertus essentielles, à mon sens, du mouvement, d'un mouvement qui s'épanouit lorsqu'il est au cœur de la création artistique, également lorsqu'il engendre la réalité d'un corps spectacle, source d'une beauté transcendée. Abordons tout d'abord les tentatives de conquête du mouvement par les artistes. L'homme n'est jamais plus semblable à lui-même que lorsqu'il est en mouvement, écrit le Bernin, dont vous pouvez admirer le fameux enlèvement de Proserpine, une œuvre réalisée autour de 1621-22, une œuvre en marbre monumentale qui se trouve à la Galerie Borghese, un exploit dans la mesure où le Bernin n'a que 23 ans quand il compose cette œuvre. Le Bernin qui, par ailleurs, imposait à ses modèles de bouger, tout comme Delacroix, qui fustigeait les peintres qui contraignaient leurs modèles à d'interminables pauses. Mais si dès l'aube de l'histoire parvient à figurer son image, si les artistes vont réussir à maîtriser, et parfois de façon troublante, saisissante, la réalité des corps, des visages, si ces artistes arrivent à exprimer les traits les plus cachés d'une personnalité, des émotions, des états, ils demeurent toutefois souvent prisonniers de l'instant qui arrête le temps. En effet, les gestes codifiés des représentations mythologiques, allégoriques, historiques, religieuses, les gestes naturels, profanes ou sacrés, avec lesquels peintres et sculpteurs tentent d'humaniser, d'animer leurs personnages, les figent la plupart du temps cependant à jamais. C'est le cas de cette somptueuse Marie-Madeleine en pamoison, une œuvre datant du XVIIe siècle. Un mot pour vous préciser que j'ai choisi d'illustrer cette communication à la fois par des œuvres très célèbres, incontournables, mais aussi par des œuvres plus confidentielles, moins connues, issues de collections privées, mais à mon avis très représentatives de mon propos. De même, en Orient, les dieux taoïstes, hindouistes, les gardiens de temples, les gardiens de tombeaux, qu'on appelle en Chine les Lokapala, s'ils indiquent aux hommes la voie qu'il leur faut suivre, s'ils sont là aussi pour leur exprimer par un geste, par une attitude de leur corps tout entier la sérénité, la confiance, ou leur communiquer la crainte, le respect, et bien souvent ces dieux sont souvent prisonniers d'une pose qui, aussi fascinante qu'elle soit, les coupe de la réalité du monde des vivants. En témoigne, comme vous pouvez le constater, ce Guandi. Guandi, c'est le dieu de la guerre, un dieu taoïste en Chine, mais un dieu qui est en même temps protecteur des maisons, des grandes familles, et dont l'allure martiale est destinée à éloigner les ennemis et plus encore les mauvais esprits. Son déhanchement, ses yeux de sulfure, et même l'hippocampe, que l'on ne voit pas bien entendu, ou le petit insecte qui, inséré vivant dans une cache au dos de la statue, lui donne, dans l'espoir de lui donner la vie, sans y parvenir totalement. Malgré les difficultés pour animer le marbre, pour faire surgir d'un support de toile, de bois ou de papier de nombreux artistes maniéristes, à défaut de reproduire parfaitement le mouvement d'un corps, vont trouver des procédés pour le suggérer. Et tout d'abord, en le démultipliant à travers les gestes des nombreux personnages qui peuplent leur toile. Ce que l'on peut constater, vous et moi, dans cette œuvre de la première moitié du XVIIe siècle, toute droite issue de l'atelier de Théodore van Tulden, qui est un maniériste flamand, très influencé par Rubens, dans cette œuvre qui est à nouveau un enlèvement de Proserpine par Pluton, le dieu des enfers, car j'aime à comparer les manières dont différents artistes ont traité le même sujet, comme celui de Le Bernin tout à l'heure. Ou encore, on peut le constater dans cette œuvre qui est une allégorie de la chasse et de la pêche, œuvre française du début du XVIIIe siècle. Dans ces deux tableaux, on voit réellement le souci des peintres de démontrer à la fois leur savoir-faire par la démultiplication des gestes, gestes de la nuque, des bras, des jambes qui sont traités sous tous les angles, mais aussi leur volonté profonde d'insuffler le maximum de vie à leur personnage. Une technique de démultiplication reprise avec bonheur par des artistes contemporains tels que Pierre-Yves Trémoy, notamment dans Ténèbres, qui est une œuvre monumentale ornant l'une des parois de la chapelle de la Genèse qu'il réalise en 2006. Œuvre monumentale, excusez du peu, de 7,30 m de long sur 4 m de hauteur, où on voit des corps emmêlés, luttant, l'illustration même des dérives des hommes. Cette œuvre qui fait face à l'autre paroi, intitulée « Lumière », qui évoque, elle, au contraire, la vie, les promesses de la vie, l'espoir, l'avenir. Dichotomie, paradoxe de la nature humaine, un thème qui est cher à l'artiste, à qui je dois beaucoup et que j'ai ici l'occasion et le plaisir de saluer et de remercier. Demain, les sculpteurs, les orfèvres, les peintres asiatiques, et notamment tibétains, pour ne citer qu'eux, utiliseront les multiples membres dont sont pourvus bon nombre de leurs dieux et déesses pour suggérer la vie et le mouvement. Nagaraja, que vous pouvez contempler, c'est aussi le roi serpent, est un cuivre repoussé tibétain du XVIIe siècle. Pour la petite histoire, les Nagas sont ces divinités souterraines, gardiennes des trésors enfouis et ennemies de Garuda, l'oiseau divin. Mais revenons-en à ces artistes asiatiques, qui n'hésiteront pas à mêler avec allégresse bras et jambes de leur sitipati. Alors, ce qu'on appelle les sitipati au Népal ou au Tibet, eh bien, ce sont ces squelettes dansants, pour rappeler en même temps la vacuité de toute chose, et que la mort, comme dans beaucoup de civilisations, est source de vie. Des sitipati qui rappellent étrangement les danses macabres de notre fin du Moyen-Âge, et que l'on peut observer dans ce pendentif en argent, tibétain lui aussi, et datant du XIXe siècle. À côté de la démultiplication des gestes, d'autres artistes préféreront privilégier l'esquisse à l'œuvre aboutie pour suggérer le mouvement. Pourquoi une belle esquisse nous plaît-elle plus qu'un tableau ? C'est qu'il y a plus de vie et moins de forme. À mesure qu'on introduit la forme, la vie disparaît, affirme Diderot. Une assertion déjà préfigurée chez Rembrandt à mon sens, lorsqu'il grave les trois croix. Si l'on ne peut en aucun cas assimiler cette œuvre fameuse que vous pouvez contempler, à une esquisse, force est de constater que Rembrandt, et c'est là tout son génie, arrive en quelques traits d'une vigueur et d'une rigueur exceptionnelles, et notamment sur la droite de la gravure, plus encore que sur la gauche, qui est plus aboutie, eh bien Rembrandt arrive à suggérer, avec réalisme et beaucoup d'émotion, les mouvements et attitudes associés à la douleur et au désespoir. D'autres artistes encore, avant même l'avènement des impressionnistes, en utilisant des touches plus libres que celles des peintres classiques à la figuration d'une absolue précision, réussiront à insuffler la vie aux personnages qu'ils représentent. C'est le cas d'un Fragonard ou encore d'un Delacroix lorsqu'il s'exprime autrement que dans la plupart de ses œuvres de commande. Ici, Fragonard associe dans les baigneuses, c'est le titre du tableau, beaucoup plus encore que dans le verrou que vous connaissez, qui est au Louvre, à la facture beaucoup plus conventionnelle, eh bien Fragonard dans ses baigneuses associe des gestes aux physionomies très naturelles et libres des personnages, des gestes qui trouvent leur prolongement dans l'inclinaison des feuillages et les nuages qui semblent animés par le vent. Mais il ne faut pas croire que les artistes aient attendu le XVIIe, le XVIIIe ou encore le XIXe siècle pour trouver des procédés capables de suggérer la vie. Les peintures rupestres de la grotte Chauvet, il y a quelque 30 000 ans, en témoignent. Des peintures qui préfigurent la démarche des futuristes qui reprennent, au début du XXe siècle, l'héritage vitaliste, remontant à la pensée grecque, un héritage qui privilégie la notion de devenir à la notion d'être. Carlo Cara, qui est l'un des futuristes les plus représentatifs, en 1913, invoquant à travers la création artistique un nouvel ordre universel, déclare sans embâge « Nous, futuristes, voulons nous identifier au cœur des choses grâce au pouvoir de l'intuition. C'est pourquoi nous décrivons les plans d'une peinture comme une expansion sphérique dans l'espace permettant de rendre compte du mouvement perpétuel inhérent à toute chose vivante. » Mouvement, qui est aussi intitulé « Formes uniques dans la continuité de l'espace », œuvre d'Umberto Boccioni, illustre parfaitement son manifeste, qu'il publie en 1912, manifeste de la sculpture futuriste. Elle marque, cette sculpture, une rupture avec la sculpture classique, les lignes heurtées brisant l'unité de la masse. Comme vous le savez, certainement, cette œuvre, on est là dans le cadre des œuvres incontournables, eh bien vous pouvez l'admirer au MoMA de New York. Les peintres futuristes utiliseront aussi largement la technique de la décomposition de l'image pour fixer l'instant, mais en même temps pour projeter leur sujet dans un futur immédiat. Et j'ai choisi cette œuvre plus confidentielle d'Hugo Schaeber, intitulé « Le cirque », réalisé autour de 1925. Si j'ai choisi cette œuvre, eh bien c'est essentiellement parce que, si l'on connaît très bien le futurisme italien, le futurisme russe, il ne faut pas oublier que le futurisme est un phénomène éminemment européen et que dans chaque pays, il y a eu des écoles futuristes et Hugo Schaeber est le chef de file, quelque part, des futuristes hongrois. La décomposition de l'image, une technique qui est reprise dans la peinture contemporaine, et notamment par Vladimir Velikovic, dont les œuvres, influencées sans doute par la démarche de Muybridge, sont empreintes d'une énergie et d'une force dynamique, comme vous pouvez le constater, hors du commun. Il appartient de le saluer ici. On aurait pu évoquer, bien sûr, Marcel Duchamp et son célèbre nu descendant un escalier. Mais j'ai préféré le mettre en équation un peu plus loin en le privilégiant avec le travail chronophotographique de Marais et de Méni. En parallèle avec peintres et sculpteurs, on peut faire une place particulière aux facteurs et manipulateurs de marionnettes, ainsi qu'aux créateurs d'automates qui jouent un rôle essentiel dans cette conquête du mouvement. Phénomène théâtral à part entière, la marionnette existe par et pour le mouvement que lui impose son manipulateur, avec l'objectif essentiel de reproduire le plus fidèlement possible les mouvements de l'homme, mais il ne faut pas l'oublier, aussi ses émotions. Pour ce faire, les marionnettistes ont développé un éventail de techniques plus imaginatives les unes que les autres. Elles peuvent être ces marionnettes digitales, à gaines, comme les marionnettes lyonnaises, à baguettes, à tiges, à tringles, à fils. C'est certainement cette dernière technique, les marionnettes à fil, qui permet de s'approcher au plus près de la réalité des mouvements humains, voire de les dépasser, de les surpasser. J'ai choisi de vous présenter ce Pierrot qui est une marionnette du tout début du XXe siècle, qui est la déclinaison du Pulcinella napolitain, qui a été apporté en France par les comédiens italiens. Et l'on peut constater, il est toujours habillé de la même manière, eh bien son costume blanc et large, qui est fait à dessein pour donner de l'ampleur à ses mouvements. Marcel Marceau s'en inspirera pour créer son célèbre bip. Abordons à présent la notion d'automate. On trouve, et peu de gens le savent, la trace d'automate ou considérée comme telle dès l'Antiquité, d'abord en Égypte, où par exemple c'était une effigie du dieu Amon qui était chargée de désigner celui qui était le plus apte à gouverner. On en trouve également mention chez Hérodote, qui rapporte que des statuettes articulées étaient utilisées en Égypte lors des fêtes d'Osiris. Témoin aussi ce traité des automates que nous devons à Héron d'Alexandrie au IIe siècle avant notre ère. Et puis au Moyen-Âge, il fait mention de vierges et de Christ articulés qui sont utilisés lors de la Passion le Vendredi Saint. C'est surtout à partir de la Renaissance que l'automate devient une machine à remonter le temps, à l'image de l'horlogerie qui est très en vogue à cette époque, et pourvue d'engrenages et de ressorts qui sont destinés à créer l'illusion parfaite du mouvement. Toutefois, c'est au XVIIIe siècle que s'épanouit la mode d'automates androïdes, se voulant la copie conforme des humains, de leurs mouvements comme de leurs comportements, mais aussi capables, et c'est ça qui est très intéressant, d'aider dans le sillage de la pensée de Descartes, nous aurons l'occasion d'en reparler, à la compréhension de la mécanique humaine. Ainsi, Jacques de Vaucanson, ça n'est pas cela puisque nous n'avons pas d'image, je vais vous en parler, tente de mettre en exergue au XVIIIe siècle, autour des années 1730, de mettre en exergue à travers l'automate les fonctions vitales du corps humain. Ses œuvres les plus abouties sont sans conteste un joueur de flûte dont la mélodie provient véritablement de l'instrument. Aussi un être capable de déglutir et de digérer des aliments. Il s'agit d'un canard, le fameux canard de Vaucanson. Nous n'avons plus de traces de ce canard, de traces matérielles, si ce n'est qu'on a conservé ces traces dans les textes et dans la description de sa mécanisme. Le XIXe siècle et le début du XXe siècle, et c'est là-dessus que je voudrais m'étendre un peu plus, verront l'apogée des automates et coexister leurs deux fonctions de reproduction et de compréhension. En voici quelques illustrations. Le montreur de marionnettes, il est dû à Lambert, à la fin du XIXe siècle. Je n'ai pas pu résister à vous le montrer, dans la mesure où il est un peu le trait d'union entre le monde des marionnettes et le monde des automates. Très belle automate de très grande taille que nous avions exposé lors de l'exposition de 2011 la pianiste de Watteau, que l'on doit à Vichy, automate également de la fin du XIXe siècle. Alors, je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous passer un petit fil, j'en ai privilégié d'autres, mais, croyez-moi sur parole, eh bien, cet automate, cette pianiste, laisse ses doigts courir sur le clavier, ses yeux suivent la partition, et même, on voit sa poitrine se soulever de manière à reproduire sa respiration. Dans ce joueur de tambour, que l'on doit, lui, à Descamps, fin du XIXe siècle, ça sont des marionnettes qui ont 120, 130 ans, 140 ans, eh bien, dans cette marionnette, il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est le mécanisme qui produit le son, un peu dans l'esprit de Vaucanson et de son joueur de flûte. Alors que dans la pianiste, ce n'était qu'une boîte à musique qui accompagnait le mouvement, même si ce mouvement était extrêmement fidèle. Les automates, à mi-chemin entre le monde des arts et celui des inventeurs, est un merveilleux trait d'union pour aborder la manière dont les scientifiques, au cours des âges, se sont penchés sur ce que l'on pourrait appeler la science du mouvement. Ce que l'on appelle la science du mouvement peut trouver son origine dans les livres d'exercices de la Renaissance, où l'on voit des figures montrant les positions du cavalier, de l'escrimeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y découvre une géométrie formelle dans ces manuels, avec des cercles, des carrés, des quadrillages. Ce qui est intéressant également, c'est que la dynamique idéale doit être celle des astres brillants. Les mouvements de l'homme doivent imiter les mouvements du ciel. Le microcosme se doit d'être à l'image du macrocosme, ce que l'on retrouve aussi à la même période en médecine. Au XVIIe puis au XVIIIe siècle, sous l'influence, encore lui, des théories mécanistes de Descartes, une évolution radicale s'accomplit, notamment avec Borelli en 1685 et ses schémas illustrant les mouvements du corps. On y fait référence au levier, on assimile les mouvements à ceux des machines, des grues, et l'organisme lui-même devient une véritable machine qu'on étudie pour elle-même. On se penche alors sur les notions d'inclinaison, de centre de gravité. C'est toutefois au XIXe siècle qu'apparaît l'essentielle notion de décomposition du mouvement, suivi de sa recomposition. À l'exemple des cours de natation qu'on donne au début du XIXe siècle, où l'on décompose sur un chevalet chaque geste, suit une recomposition pour arriver au mouvement parfait. Il en est de même pour cette leçon de gymnastique qui est tirée de la gymnastique élémentaire éditée en 1819. Mais ce sont surtout Étienne-Jules Marais, qui est à la fois médecin, physiologiste, inventeur, membre puis président de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, professeur au Collège de France. Marais et son principal collaborateur, une génération les sépare, qui est Georges Demény, lui qui est photographe, qui est gymnaste, qui est inventeur, fondateur de l'éducation physique, scientifique, c'est ainsi qu'on la nomme, à la fin du XIXe siècle. Eh bien, Marais et Demény, grâce au fusil photographique, alors le fusil photographique était un véritable fusil sur lequel on montait un appareil photo, bien entendu l'appareil photographique de l'époque, mais qui avait cette particularité, un peu à la manière des appareils photographiques actuels, de pouvoir prendre des images en rafale. Donc, grâce au fusil photographique, à la chronophotographie, que l'on va étudier un peu plus tard, à l'enregistrement graphique, eh bien, ils arrivent véritablement à capter la forme de la chute des corps, à donner à voir et à comprendre le déroulement du mouvement dans le temps. Les traces de leurs recherches sont d'une enivrante beauté. Ils inspirent d'ailleurs des artistes, tels que Max Ernst ou Marcel Duchamp, et ses parallélismes élémentaires, qui se déploient sur la toile, apparaissant pour la première fois dans « Jeune homme triste dans un train » de 1911, le nu descendant un escalier qu'il compose l'année suivante et que vous pouvez observer, s'apparente à l'homme dévalant une pente qui a été photographiée par Marais, répondant à un principe, comme vous pouvez le voir, cumulatif. Ainsi, dans le travail chronophotographique sur plaque fixe, tout est fait sur plaque de verre, on assiste à une décomposition des mouvements afin de mieux comprendre leur continuité et les forces qui les produisent. J'ai privilégié quelques clichés qui me paraissaient très intéressants. D'abord, cette analyse du sauteur à la perche. Puis, cette mise en garde après salut au fleuret. Troisième image, ces sauts successifs de pieds fermes, qui par leur abstraction pourraient s'apparenter tout à fait à une œuvre contemporaine. Comme on peut le constater, les chercheurs ont inventé une tenue qui ne laisse du corps que son épure, des points et des lignes blanches situées le long des membres, situées aux articulations. Elle permet de percevoir, comme le dit lui-même Marais, un mouvement arrondi, continu et complet, qui fait de la chronophotographie l'ancêtre des techniques gestuelles par l'image projetée qui marque le XXe siècle et notre époque contemporaine. Ces techniques gestuelles permettent, et on va le constater, notamment dans le domaine sportif, de corriger le mouvement et ainsi de faire progresser de manière considérable les performances des athlètes. C'est le cas dans le tennis, où l'on est passé, pour augmenter les performances, de l'analyse du dessin à la photographie, de la photographie à la chronophotographie, puis à l'image en 3D, avec analyse des forces grâce à une numérisation du mouvement, et enfin aux images de synthèse. Mais revenons-en à Demény. Ses recherches vont l'amener à l'invention et à la réalisation, et là c'est véritablement révolutionnaire, dès 1891, d'un appareil permettant d'animer pour la première fois ces images. Et cet appareil s'appelle le phonoscope, qui a été breveté le 3 mars 1892, il y a quelque 125 ans. J'ai décrit sous le nom de phonoscope un appareil destiné à produire l'illusion du mouvement au moyen d'un disque portant des séries photographiques, comme vous pouvez le voir, soit par vision directe, soit par projection. Dit Marais, avant d'ajouter, et je pense que cette phrase est essentielle, combien de gens seraient heureux, on est en 1892, s'ils pouvaient un instant revoir les traits vivants d'une personne disparue. L'avenir remplacera la photographie immobile figée dans son cadre par le portrait animé, deux mots qui sont chers à Étienne Jules Marais, auquel on pourra en un tour de roue rendre la vie. Le film Apparition, réalisé par l'INSEP, propose une animation de 34 séries de clichés représentant un ensemble de 760 images. Je ne pouvais pas vous le montrer complet. J'en ai sélectionné un certain nombre de ces clichés, de ces premières images animées. Nous allons vous les présenter. C'est quelque chose d'extrêmement rare puisqu'on est, comme je vous le disais, en 1892. Ce sont vraiment et réellement les premières images animées, 3 ans avant les films des frères Lumière qui ont été réalisés en 1895. Vous allez voir qu'ils sont extrêmement intéressants et chargés d'émotions. Thank you. un témoignage, selon moi, extrêmement émouvant. Le phonoscope marque l'aboutissement de la conquête du mouvement, de l'espace et du temps, mais en même temps, il introduit une ère nouvelle, bien entendu celle du cinéma, mais aussi celle de la robotisation androïde, prolongement actuel du fameux mythe du golem. À l'image de ce robot Nao, première version, 58 cm, 5 kg, Nao est autonome, il est interactif, il est programmable, il parle plusieurs langues, il identifie, il marche, il a le sens du toucher, il peut se connecter à Internet. Il a d'ailleurs été l'ambassadeur de la France et de ses technologies de pointe à Shanghai à l'exposition internationale en 2010. Et ses principaux terrains d'action sont la robotique, bien sûr, mais aussi l'informatique, l'accompagnement, aussi bien pour le malade que pour l'handicapé, que pour les enfants ou les personnes âgées. Voici deux étudiants dans le cadre de l'Université Paris-Descartes qui travaillent à la programmation de Nao. Le phonoscope ouvre aussi une ère nouvelle pour une recherche scientifique qui est menée notamment au sein de l'Université Paris-Descartes dans le cadre du Centre d'études de la sensorimotricité. Ce centre travaille sur différents domaines, et notamment les pathologies, l'astronautique, travaille beaucoup sur les phénomènes d'apesanteur, mais aussi dans le domaine sportif. Ce sont eux qui ont travaillé à l'élaboration d'un appareil qui sert à améliorer les performances de la mêlée de nos rugbymen, par exemple. Ici, vous avez une image de laboratoire où l'on peut voir de gauche à droite un sujet volontaire avec des capteurs, le modèle cinématique, l'image tridimensionnelle, pardon, et la reconstruction du corps. Comme je vous l'avais annoncé, je voudrais maintenant consacrer la fin de mon exposé à l'une des fonctions essentielles du mouvement, en le mettant en équation avec différentes disciplines artistiques ainsi qu'avec l'acte de création. Le corps en mouvement peut tout d'abord être une source d'inspiration privilégiée et animer de façon magistrale les œuvres d'artistes reconnus, comme nous l'avons déjà pu le constater avec Trémois et Velikovic, mais aussi source d'inspiration également pour de jeunes artistes pleins de promesses, tels que Jean-Sébastien Leblond-Duniac, qui est un poète spatialiste qui réalise dans le monde entier des performances filmées autour du signe et du langage, auquel il associe le mouvement des corps, établissant ainsi un dialogue entre chorégraphie et narration poétique. Témoin, cette image extraite du spectacle Presque rien. Alors, il y avait tout à fait un film complet que nous avons mis dans l'exposition de 2011, mais malheureusement qui était trop long pour que je puisse vous le passer aujourd'hui. Source d'inspiration aussi, et c'est très intéressant, pour Annelise King. Son chemin cinématique est en quelque sorte du cinéma inversé. Ce ne sont plus les images qui se déplacent devant notre regard, mais nous-mêmes qui nous déplaçons sur une succession d'images, recomposant le mouvement. Une performance que nous avions mise au cœur de cette exposition. D'autre part, le mouvement est souvent inhérent à la force créatrice et à l'expression de nombreux artistes. S'il paraît évident dans la gestuelle des peintres de grand format, tels que Lydia Rix, que l'on peut voir ici au travail, pas de pinceau, mais une main avec le mouvement du bras qui est le prolongement, et puis le corps tout entier qui participe à l'acte de création. Le mouvement est aussi indispensable aux musiciens, aux chanteurs, mais aussi aux pianistes, aux violonistes, qui ne jouent pas seulement de leur voix, mais avec leurs doigts, mais avec leur corps tout entier. À cet égard, je n'ai pu résister au plaisir de vous faire écouter et regarder Sébastien Fournier, contre-ténor, avec qui j'ai déjà partagé de nombreuses aventures artistiques, notamment à Paris, à Hong Kong et Macao dans le cadre du French May, à Florence, à l'Accademia delle Arti del Disegno et à la Villa Finali. J'en profite pour remercier et saluer Brigitte Sédolin, sa directrice, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous cet après-midi. Écoutons à présent Sébastien Fournier dans le célèbre Cold Song tiré du roi Arthur d'Henri Purcell et apprécions ensemble cette osmose du corps, du mouvement et de la voix. C'est bon ? Non. Petit instant. Petit problème technique. Ne vous impatientez pas, vous serez récompensé. Thank you. Enfin, les mouvements du corps peuvent devenir aussi un véritable spectacle, associant grâce, forme, harmonie. Si le contorsionnisme capable de repousser les lois de la normalité est une forme extrême de l'expression corporelle, la danse est à coup sûr l'illustration la plus représentative, qu'il s'agisse des chorégraphies classiques ou contemporaines de l'Occident, ou des danses rituelles des sociétés premières. Vous pouvez admirer une chorégraphie de Pina Bausch pour illustrer justement cette danse contemporaine. Danse rituelle, danse rituelle aussi du peuple Tolaï en Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Guinée, des danses rituelles qui s'inscrivent le plus souvent dans d'ostentatoires dramaturgies qui sont associées aux grandes étapes de la vie. Elles peuvent servir d'exutoire aux angoisses collectives, mettre en situation dieux et déesses en les faisant se mouvoir à l'image des hommes et des femmes, à l'exemple de cette danse monastique du Bhoutan, photographiée par le grand reporter François Guénet. Le mouvement dansé joue aussi un rôle éminent dans la thérapeutique de praticiens animistes comme les chamans, visant à soulager les souffrances tant physiques que psychologiques de leurs patients dans le monde entier, que ce soit à Cuba, au Népal, en Mongolie, en Corée ou encore au Pérou. Le corps en mouvement a enfin le pouvoir de devenir corps-spectacle en participant à l'expression de la beauté. C'est le cas clairement exprimé dans la tradition indienne ou népalaise, où la beauté n'évoque pas seulement la perfection physique, mais relève de l'allure, du comportement. Allure et comportement se doivent de refléter dans cette tradition une grâce enjouée que vous pouvez constater dans cette statuette, une tradition dans laquelle le sanskrit, langue classique de la cour, possède toute une palette de termes pour décrire la beauté en mouvement, la beauté dansée, par opposition à la beauté au repos. En guise de conclusion, et en espérant n'avoir pas été trop long et vous avoir intéressé, j'aimerais vous faire visionner quelques extraits d'une performance que nous avions organisée en 2007 avec le concours de la Compagnie 121, compagnie de danse dirigée par Florence Guérin, en l'église Saint-François de Sales à Paris. Conçue autour du Requiem de Mozart, elle associe musique, sculpture et danse. Devant les musiciens, les danseurs évoluent autour d'un gisant qui est sculpté de manière magistrale par l'artiste Mauro Corda. Ce que j'ai voulu, eh bien, c'est terminer cet entretien par ce petit film qui aurait mérité d'être plus long. Et pourquoi ? Parce que cette performance est un véritable hymne au mouvement et à la vie, qui sont seuls capables de nous faire accepter une mort inéluctable. Je voudrais remercier tous ceux qui m'accompagnent, parents, amis, artistes, dans cette démarche résolument humaniste, en particulier Brigitte Broard, mon épouse, ainsi que Virgile Delattre, à qui nous devons cette magnifique succession d'images qui ont soutenu mon propos. Merci aussi à vous, mesdames, messieurs les académiciens, de m'avoir accueilli, écouté. Je suis, si vous le souhaitez, à votre entière disposition pour répondre, après ce film, à toutes vos questions. Je vous remercie de votre attention.
Merci.
Merci. C'est moi qui vous remercie.
Merci. Je vais passer la parole à mes consoeurs ou mes confrères pour savoir s'il y a une question. Moi, j'en ai une. Mais qui me vient comme ça après avoir vu quelques-unes de vos images. Vous nous avez montré la naissance du mouvement, vous nous avez montré l'illusion du mouvement, vous nous avez montré aussi la réparation du mouvement à un moment donné. Est-ce que la science ne nous permet pas aujourd'hui aussi d'aller à la rencontre du mouvement intérieur au corps ? Ce mouvement qui a été formidablement décrit par les artistes du XVIIIe siècle, les romantiques, ce mouvement de l'âme, et ça a donné les Friedrich, etc., et qui a été merveilleusement, décrit par Paul Valéry avec ce passage merveilleux quand il dit « Tous les jours, chaque jour, toujours pour la première fois, j'ouvre ces ailes intérieures qui battent le temps vrai et qui portent celui qui est, de celui qui fut à celui qui va être. » Est-ce que la science, qui est représentée ici, chez nous, est-ce que cette science-là ne nous permet pas aujourd'hui d'aller vers ce monde psychique, d'aller vers ce monde intérieur, constater ce battement et cette vie qui
Nazi,
est en nous ?
Je crois que les deux choses sont extrêmement liées. Comme le disait Nietzsche, il n'y a pas de différence sensible entre l'âme, l'esprit et le corps. La plupart du temps, je pense qu'au niveau occidental, à la différence par exemple de la pensée asiatique, eh bien, il y a cette dichotomie, notamment dans la science, dans la médecine par exemple, entre le corps d'un côté et l'âme de l'autre. Et nous sommes en train d'écrire là un livre comparant la médecine occidentale et la médecine chinoise. Et on s'aperçoit en particulier que, eh bien, à l'heure actuelle, il y a besoin, de part et d'autre, d'aller dans les deux sens. Dans la mesure où nous avons perdu un peu, et vous avez raison de le souligner, nous avons perdu cette idée que nous sommes dans une globalité. Jusqu'au XVIe siècle, l'homme est considéré comme quelque chose de... comme une entité. Bon. À partir du XVIe, XVIIe siècle, la science a coupé, je dirais en Occident, en tranches. Vous voyez, même le corps, elle l'a coupé en tranches. Et on a isolé l'âme, l'esprit, du corps. Et je crois que la grande différence, par exemple, avec la pensée asiatique, eh bien, c'est qu'il y a toujours, et notamment, par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a toujours cette conception d'ensemble qui nous manque. Alors je pense que la science occidentale fait véritablement des progrès dans ce sens-là. Parce que c'est vrai qu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, il y a eu trop de compartimentage, si je puis me permettre cette expression, alors que il faudrait, mais je crois que c'est plus une question de culture profonde que de science en quelque chose. Mais c'est vrai, par exemple, qu'il y a un certain nombre, pour en avoir discuté avec eux, de médecins qui commencent, même s'ils ont été spécialisés dans tel ou tel domaine, commencent à s'apercevoir que peut-être il y a encore cette entité qui a à prendre en considération.
En tout cas, ce trait d'union a été formidablement montré par Sébastien Fournier, hein, entre cette basse et ce contre-ténor qui est formidable. Je trouve ça merveilleux. On voyait bien le voyage intérieur que l'on pouvait faire. Merci, merci beaucoup. Y a-t-il une intervention de Philippe Garrel, qui est peintre? Philippe, si tu peux prendre un micro qui est devant toi.
Je profite de l'opportunité de... que vous abordiez la question de la science et de l'art, pour vous rappeler une exposition formidable. J'en garde un souvenir ému.
Si tu peux parler un peu plus près. Voilà, merci.
Une prédiction du reste sur cette exposition qui s'appelle « L'âme au corps », qui a eu lieu en 1993 au Grand Palais, qui qui était une exposition qui aspirait à illustrer une idée qui a eu lieu en 1793 et qui consistait à construire ou à réinventer un temple à la gloire de la grande réunification de la science et de l'art. Ce projet n'a pas eu lieu, il a commencé à se faire, et puis finalement il a été scindé. Le Louvre est devenu très vite le lieu des arts, le Muséum d'histoire naturelle est devenu le Muséum d'histoire naturelle, et quelques années plus tard, le Musée des arts et métiers, et donc le grand rêve de la réunification de l'art et de la science n'a jamais pu avoir lieu. Et Jean Clair, qui est commissaire d'exposition, et le professeur Changeux, qui est, je crois, neurobiologiste, également à l'Académie, avaient réalisé une exposition magnifique. Et malheureusement, c'est 1993, c'est l'année où les premiers boulons du Grand Palais sont tombés. Donc ils ont été trahis, une fois de plus, par la science. Voilà.
Tout à fait, mais je crois, si vous voulez... Non, ce n'est pas une question, mais je pense, comme je vous l'avais dit au départ, et c'est ce que nous avions envisagé de faire avec Axel Kahn lorsqu'il était président de l'université, ce que l'on continue aussi avec Frédéric Dardel, qui est le nouveau président de l'université, eh bien, c'est d'ouvrir l'université sur la cité et de l'ouvrir tous azimuts. Je vous parlais tout à l'heure de la reconstruction d'un nouvel humanisme. On est véritablement là, si vous voulez, en prise avec cela. Et je vois, par exemple, au niveau des expositions que nous avons pu faire, notamment à Moscou ou à Paris, eh bien, qu'il y a une très forte demande de la part des gens, de la part des visiteurs, pour avoir justement cette pensée globale. Ils appréciaient considérablement toutes les transversales qu'on pouvait établir. Et je crois que c'est ce qui manque véritablement à nos sociétés occidentales. Et en fait, toute notre démarche, notamment à l'Université Paris-Descartes, c'est celle-là, c'est celle de reconstruire une véritable entité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière entre les sciences, entre les arts, etc., mais qu'il y a une conception globale des choses. Et ça, je crois qu'on ne peut pas nier le progrès. Nos progrès occidentaux sont extraordinaires. Mais ce que nous avons peut-être perdu au fur et à mesure des siècles, eh bien, justement, c'est cette conception d'ensemble, cette conception, en fait, humaniste. Il n'est pas question de revenir à un humanisme au sens de la Renaissance, mais peut-être, j'évoquais tout à l'heure, la reconstruction d'un nouvel humanisme, c'est-à-dire une ouverture. Et ce dont les gens manquent peut-être à l'heure actuelle, eh bien, c'est de cette ouverture aux autres, de cette ouverture aux différents secteurs, aux différents domaines, cette curiosité. Et en définitive, à travers les ouvrages que nous écrivons, à travers les expositions que nous faisons, eh bien, il y a toujours de manière sous-jacente véritablement cette volonté de reconstruction d'un nouvel humanisme.
Quelqu'un veut-il prendre la parole? Nous avons reçu ici même, il y a quelque temps, la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Catherine Boisginac, une des deux secrétaires perpétuelles, et qui nous disait que la différence entre la création, l'art et la science, c'était que pour l'art, il fallait un créateur, et que pour la science, il fallait un prédécesseur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'invention se ferait de toute façon parce qu'il y avait eu des choses qui se sont faites avant. Ce qui dans l'art est aussi vrai parce que l'art est une chaîne et on va rarement en arrière. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup.